On en jase, ton émission du midi à Boulevard 102.1. Pascal, dis-moi donc, comment qu'elle disait ça dans Geneviève Guilbeault? Je n'ai pas de souvenir expérientiel de...
Dans ma mémoire.
Ouais. Il y en a un autre qui a été pris par le même virus. Bill Clinton, l'ancien président américain.
Et pourtant, des vidéos de témoignages des Clinton qui concernent Epstein ont été publiées par une commission de la Chambre des représentants, donc CBC News qui nous indique le tout. La commission de surveillance de la Chambre des représentants qui est allée de l'avant avec des enregistrements, des dépositions de la semaine dernière de l'ancien président Bill Clinton et de l'ancienne secrétaire d'État Hillary Clinton. C'est un dossier qu'on suit assurément, là, tout ce qui se passe aux États-Unis avec les témoignages publics en frais sur les agissements de Jeffrey Epstein. Bill Clinton qui assure toujours n'avoir rien à se reprocher et on demande toujours à ce que Donald Trump ait témoigné. Sinon, il y a quelque chose qui est arrivé dans l'actualité et c'est absolument troublant. Tragédie sur une butte à Chambly. L'enfant de 6 ans qui est décédé sous les yeux de ses parents, c'est ce qu'on dit. Il y a un témoin qui raconte le chaos des dernières heures du drame. Donc, c'est encore dans l'actualité aujourd'hui. On en reparle. Il y avait des enfants qui pleuraient et tout ça. On décrit la scène en Montérégie de façon totalement tragique. Et ce qu'on donne comme information, c'est que la petite victime aurait glissé sur la portion de la butte qui était un peu utilisée pour grimper là, à pied au sommet. Puis on ne sait pas trop si la manœuvre était accidentelle. Ça, c'est particulier à lire, mais c'était glacé. Ça va peut-être amener le débat des buts de neige dans les écoles de l'Avent. Action collective contre le Mont-Sainte-Anne, ça vient de tomber. Le tribunal va entériner l'entente de 5,1 millions de dollars. C'est un pas de plus qui est franchi pour les victimes de les arrêts brusques des télécabines du Mont-Sainte-Anne. C'était à l'hiver 2020. C'est un juge qui a annoncé qu'on allait entériner donc totalement, entièrement, intégralement l'entente de 5,1 millions de dollars. Et ça, c'était dans l'action, c'était dans le cadre de deux actions collectives intenté contre la station de ski.
On va immédiatement rejoindre Alicia Despins, notre chroniqueuse politique municipale et ancienne conseillère municipale pour le district de Vanier-du-Berger. Alicia, comment vas-tu?
Ça va bien, vous autres?
Ça va super bien. Alicia, là, je veux comprendre, pourquoi la ville de Lévis fait affaire à des avocats externes qui leur coûtent la peau des fesses, et alors qu'on a un service juridique dans toutes les municipalités?
Bien, effectivement, je pense que c'est très parlant. Et en même temps, les avocats, c'est ça que ça coûte. Là, on parle de 52 000 $ à ce jour en frais d'avocat avec deux firmes différentes là, pour gérer ces poursuites-là. Moi, ce que ça me dit, c'est que ça montre que c'est un vrai gros dossier. Donc, clairement, la ville de Lévis a estimé que les avocats, son service juridique, ne suffisaient pas à la tâche là, pour préparer la défense de ce dossier-là. Alors, pour moi, c'est aussi simple que ça. C'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de préparation. Il y a probablement aussi une question d'expertise, de spécialité. Là, on parle d'avocats qui sont vraiment spécialisés en droit, non seulement en droit municipal, mais en droit de la construction. Alors, d'aller chercher là, cette expertise-là, ben, c'est le prix qui vient avec.
On dit toujours que le meilleur résultat dans un procès est le résultat qu'on va avoir négocié avant de passer devant le juge. T'attends-tu à ce qu'on développe cette stratégie-là du côté de Lévis? Parce que sinon, on pourrait avoir pas mal d'informations privilégiées qui soient obligées de sortir dans les médias. Puis ça fera peut-être pas belle figure pour l'administration de la ville de Lévis, qui est encore en place, là, le DG y compris.
Effectivement, je m'imagine que ça va être la première stratégie. Je pense pas là, que personne a envie d'aller en cours et de prolonger ce sujet-là là, pendant encore plusieurs mois, voire plusieurs années. On sait, ça peut être long, ces procédures judiciaires-là. En même temps, je suis persuadée que c'est un enjeu dont on va entendre parler encore pendant un bon bout, peu importe si ça se règle à l'amiable ou non, ou si ça se poursuit en cours, parce que on va en parler sous plusieurs aspects. Donc là, le 11 mars, le maire Stephen Blainey a annoncé là, qu'il allait dévoiler son plan pour lever le moratoire, donner de la prévisibilité aux promoteurs. Ça, on se rappelle que c'était une promesse électorale. Après ça, on va continuer de parler de la suite de cette poursuite-là qui totalise 31,3 millions de dollars. Mais on va aussi parler à travers tout ça du projet de réfection de l'usine d'épuration des eaux de Saint-Nicolas. Ça, on parle de 75 millions de dollars. Puis, de manière plus large, on va aussi parler des 200 millions de dollars sur 5 ans pour moderniser toutes les infrastructures de traitement des eaux usées à Lévis. Fait que ça fait pas mal de stock. Moi, je pense que ça va prendre une grande place là, dans le mandat du nouveau maire Blainé d'ici l'élection de 2029. Puis je veux juste rappeler, parce que c'est important de souligner que Stephen Blainé, il a hérité de ce dossier-là. Ce n'est pas ses décisions à lui. Il fait avec. Alors, tu fais bien de rappeler que c'est du côté administratif. C'est ces gens-là qui étaient derrière ces décisions-là avec l'ancien maire Gilles Laulier. Donc, Stephen Blainé qui essaye un peu de rattraper les affaires puis de se débrouiller, de respecter, de protéger son administration publique à travers tout ça. Mais ça risque d'être une patate chaude là, dans les prochains mois.
Est-ce que ça lui permet d'avancer d'autres enjeux puis de vraiment, je vais utiliser le terme « régner » sur la ville de Lévis comme il aurait cru, il aurait pu. Il peut-tu regretter un peu son choix actuellement parce que finalement, son mandat, il est totalement amené ailleurs?
Bien, c'est sûr que c'était des enjeux qui n'étaient pas complètement inconnus, là. On avait déjà parlé, donc j'ose croire là, qu'il savait dans quoi il s'embarquait. Maintenant, est-ce qu'il pensait que ça allait prendre une aussi grande place? Peut-être pas. Puis c'est sûr et certain, je veux dire, les élus, c'est des êtres humains. Les gens dans l'administration, c'est des êtres humains. Le nombre d'heures dans une journée sont comptées. L'énergie également. Donc, c'est sûr que tout le temps qu'il passe là-dessus, il ne passe pas nécessairement sur les projets qu'il voulait, qu'il souhaitait développer. Alors ça, évidemment, ça peut être dommage. Là. Ça se peut qu'à la fin du mandat, peut-être qu'aujourd'hui, il dirait « je ne regrette pas, non, il n'y a pas de problème, je savais dans quoi je m'embarquais », mais ça se peut que dans 4 ans, à la fin de son mandat, il se dise « ben, à cause de ça, je n'ai pas pu réaliser autant de choses que je l'aurais souhaité ». Ça se peut qu'on entende ça dans 4 ans.
Pour rappel, on parle avec Alicia Despins, qui est notre chroniqueuse en politique municipale. Alicia, tu as côtoyé Jackie Smith à l'Hôtel de Ville de Québec. Un mot sur son départ. Qu'est-ce que tu retiens du passage de Jackie Smith en politique municipale à Québec?
Oui, Jackie Smith qui a été ma voisine de conseil de ville là, pendant plusieurs années, donc en 2021-2025, qui passe le flambeau. Je pense que c'est normal, je pense que c'est sain. Elle aura fait quand même 7 ans là, comme chef de Transition Québec. Moi, je ne suis pas surprise de cette décision-là. À la fois de son côté en termes d'énergie, de temps consacré à son parti politique, mais aussi parce que quand on subit une défaite électorale, je pense que c'est une question à se poser et peut-être là, que c'était le temps là, justement de laisser sa place. Jackie Smith, pour moi, c'est un bon exemple de son passage en politique municipale, là, un bon exemple de quelqu'un qui est motivé par quelque chose de plus grand qu'elle. Je pense pas que la flamme, elle est éteinte de son côté. Là. Fait que je pense qu'on risque de la revoir éventuellement, peut-être pas tout de suite, on va lui laisser quelques années, mais on risque de revoir Jackie Smith, puis je pense que ça va être aussi intéressant là, de suivre ce qui va se passer du côté de Transition Québec avec ce changement-là.
Est-ce qu'on peut survivre Transition Québec? Est-ce qu'ils peuvent survivre Transition Québec à cette défaite électorale-là où ils n'ont aucun conseiller présentement à l'Hôtel de Ville?
Bien, c'est très difficile. Donc, ils ont plusieurs défis devant eux. Ils ont le défi d'être présents dans l'actualité, d'attirer l'attention malgré justement cette absence-là au conseil municipal. Mais, avant chaque conseil de ville, les partis d'opposition, traditionnellement, font un point de presse. Donc, ils font connaître leur dossier, ils font connaître leur prise de position. Ils ont des prises de parole aussi pendant le conseil de ville. Donc, toutes ces opportunités de visibilité-là ne sont plus disponibles pour Transition Québec. Et je pense que dans leurs autres défis, mais il y a le fait qu'avec une opposition qui est plus à droite que le maire actuellement, ça se peut que ce soit plus difficile d'établir un contraste avec Bruno Marchand pour ce parti de gauche-là. Puis finalement, bien, il y a une question là, de course à la chefferie. Donc, il y a toujours 2 stratégies dans un scénario comme celui-là. Soit tu fais ça le plus rapidement possible pour donner du temps à la nouvelle chef, au nouveau chef, de se faire connaître, s'approprier les dossiers, ou tu fais ça le plus tard possible, le plus proche possible de l'élection pour profiter d'un momentum médiatique. Et moi, ce que je vois de Transition Québec, c'est qu'ils ont opté pour un genre de scénario mitoyen où ils vont vouloir se donner le temps d'organiser la course, j'imagine attirer les meilleures candidatures possibles, puis donner le temps à la nouvelle personne de se faire connaître entre sa nomination en 2027 et l'élection générale de 2029. Donc, beaucoup de défis en perspective pour Transition Québec.
Alicia Despins, on se reparle mercredi prochain après le conseil municipal, puis on se parle en personne dans la semaine du 16 mars. On va t'accueillir en studio, on va être très heureux.
Merci, bonne journée.
Salut, bonne journée. Alicia Despins, pour entendre sur nos ondes une fois par semaine à l'émission On en jase. C'est une excellente chroniqueuse en politique municipale. Pascal, t'es-tu énervé?
Pourquoi?
Canadien joue ce soir contre les Sharks.
Sérieux,
de
San Jose. Je vais arrêter de me faire prendre un moment donné à chaque fois quand tu me dis ça.
Canadien contre les Sharks ce soir. Date limite des transactions vendredi dans la Ligue nationale. On se fait un petit intermède de sport dans un instant. Boulevard 101 à l'émission On en jase.